Bonjour à tous, enfin à toutes et à tous, puisque nous parlons d'élections. Les candidats font toujours passer les femmes avant les hommes pour être sûr que tout le monde va voter pour eux. Donc. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons terminé il y a 2 semaines le travail sur les Actes des Apôtres et dans l'attente d'un nouveau cycle d'études, les anciens ont dit aux prédicateurs qu'ils avaient un peu les mains libres pour travailler sur le sujet qui leur tenait à cœur. Aujourd'hui, j'espère que je ne vais pas trop plomber l'ambiance. Après, ce qui a été dit sur la bienveillance à juste titre, mais j'avais envie de... Envie n'est pas le terme, j'avais besoin plutôt d'échanger avec vous sur quelque chose qui me semble important, qui m'est apparu il y a très peu de jours en lisant ma Bible, plutôt en la parcourant, puisque j'avais quartier libre. La liberté est toujours un peu, c'est merveilleux, mais c'est un peu angoissant, parce qu'on a trop de choix. Et je suis très rapidement tombé sur un petit passage de Jean, qui m'a vraiment intéressé, qui m'a parlé, et dont j'ai voulu tirer le fil pour savoir ce que nous pouvions ensemble voir ce que ce texte pouvait nous apporter. C'est dans Jean 2, et c'est le verset 23, c'est juste après que Jésus ait chassé les marchands du temple. Il est dit, donc verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Je ne sais pas pourquoi, pourtant les évangiles, je les ai lus et relus, mais ces trois versets-là, ils ne m'avaient pas du tout... Je n'avais pas été imprégné d'eux, c'est comme si je les découvrais pour la première fois. Alors, si j'avais forcément lu, mais s'ils m'ont parlé il y a quelques jours, c'est qu'il fallait que je vous en parle. Voilà. Ils sont assez terribles, et pour en venir à ta notion de bienveillance, oui, nous devons avoir de la bienveillance les uns pour les autres, Dieu a de la bienveillance pour nous, mais pas à n'importe quel prix. Je veux dire, c'est pas être chrétien, c'est pas une pochette surprise. Tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est merveilleux, et Jésus nous aime comme on est, on fait ce qu'on peut, et puis on traverse qu'un cas la vie avec nos problèmes, nos soucis et nos secrets, et puis de toute façon, à l'arrivée, tout le monde est gagnant. C'est un peu réducteur. Je crois que le christianisme de la joie pure et dure et de la bienveillance permanente, c'est un christianisme qui ne dit pas l'entière vérité. Le christianisme, c'est aussi, c'est d'abord une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle. Et cette rencontre, elle nous dit quelque chose sur nous, d'abord. Et si on n'est pas capable, nous, de savoir ce qu'on a à se dire sur soi-même, à se reconnaître tel qu'on est vraiment, cette rencontre avec Dieu, elle n'a pas de sens. Ou en tout cas, elle n'aura pas le sens que Dieu veut qu'elle ait. Et on peut même peut-être se tromper sur la finalité de cette rencontre. On peut imaginer en effet que... Youpi, youplala, mais non, peut-être pas youpi, youplala. Relisons ce texte phrase par phrase. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, ça c'est bien, mais il y a une cause, voyant les miracles qu'il faisait. Donc déjà, cette foi-là, elle est induite, elle est la conséquence de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un amour qui va vers Jésus, mais qui est la... qui est tant que ça, c'est parce qu'il m'a donné ça, c'est parce que j'ai vu ça, que j'accepte de croire. Donc, les amours qui sont liés à « parce que j'ai un intérêt dans l'affaire » sont déjà un peu tendancieux. Mais c'est surtout la suite, vous l'avez compris, qui est très intéressante, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et ce qu'il dit sur eux, ces gens qui sont là, qui courent en son nom, voyant les miracles, c'est nous. Je veux dire, s'il y avait un miracle qui se faisait là, évidemment, on serait tous là à croire en lui, encore plus fort pour ceux qui y croient déjà et fort pour ceux qui le découvriraient. Mais il est dit que Jésus ne se fierait point à nous, à cette foi, à cette sincérité-là, parce qu'il nous connaît, parce qu'il les connaissait tous. Et ça continue, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, c'est-à-dire que si Jésus était là, on dirait, écoutez, Jésus, je me permets, Georgette, là on est dans le top, là il n'y a pas de souci. Emmanuel, on peut en discuter, mais Georgette, là c'est sûr que ça se passe très très bien, là tu peux la prendre d'entrée dans ton équipe, c'est gagnant. C'est bien ce que je dis. Mais ça, Jésus n'a pas besoin que moi je rende témoignage de quiconque et réciproquement. Ça ne marche pas. Car lui-même savait ce qui était dans l'homme. Et là, il me dirait gentiment, écoute, je te remercie de me présenter cette charmante dame, mais moi je sais exactement qui est Georgette et c'est entre elle et moi et je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Tu es rassuré. Et je pense que cette phrase « Dieu n'a pas confiance en nous », elle est extraordinaire, parce qu'elle nous replace immédiatement dans la vérité de notre relation avec Dieu. Il ne peut pas avoir confiance en nous parce qu'on n'est rien. On n'est pas bien, on n'est pas bon, on se plante tout le temps, Paul l'a dit, il l'a redit, mais on oublie de le dire quand même. C'est pas parce qu'on a rencontré Dieu qu'on est chrétien qu'on est quelqu'un de meilleur, c'est pas vrai. Et surtout, on peut le dire, on peut tromper les autres, on peut faire illusion dans l'Église, entre nous, etc. Mais le fond de ce que l'on est, qu'on ne dira à personne, Dieu, Jésus, il sait lui exactement. Et à lui, on ne peut pas lui mentir. Vous savez, quand vous regardez un match de football, même si vous voyez que des extrêmes, maintenant, depuis quelques années, il y a une mode qui s'est mise en place. Dès qu'un entraîneur parle à son joueur ou un joueur parle à un autre joueur sur le terrain, comme ça, tu passes la balle à droite, tu passes la balle à gauche. Parce qu'ils ont peur que maintenant, il y a des spécialistes de la lecture sur les lèvres qui vont dire, ah, il a dit, passe la balle à un tel ou bien Zozo est complètement nul. Du coup, c'est répété sur les réseaux sociaux et ça fait un scandale. Donc, ils cachent et en disant ça, en cachant devant leurs lèvres, ils se disent, personne ne le sait. À part la personne à qui je le dis. Oui, c'est valable au football, c'est valable pour d'autres, dans plein d'autres choses, je te dis. Mais devant Jésus, ça ne marche pas. Devant Jésus, ça ne marche pas. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il nous connaît tous. Et si on prend conscience de ça, il faut savoir ce que ça veut dire, il nous connaît tous. C'est-à-dire, il connaît l'humanité. Là encore, on a une grande ambition personnelle, un grand orgueil de croire qu'on est différent. Qu'il a fallu qu'on naisse sur Terre pour que peut-être l'humanité comprenne quelque chose d'un peu spécial. Les autres ne comprenaient pas ça, puis moi je suis différent, j'aurais peut-être eu une attitude. C'est pas vrai. Si on regarde la vie des hommes depuis la nuit des temps, c'est les mêmes attitudes, c'est les mêmes comportements. Après, il y a des événements qui font qu'on ne vit pas tous les mêmes choses de la même façon. Il y a des drames, malheureusement, qui s'abattent sur certains plus que sur d'autres. Mais à l'arrivée, on a les mêmes besoins, on a les mêmes désirs, on a les mêmes peurs, on a les mêmes chagrins, on a les mêmes désespérances, on a les mêmes envies, on a les mêmes violences. Et on passe par la même case, on est plus ou moins aimé par nos parents. Il n'y a que là où il y a un petit, une différence entre nous. On va rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, qui va nous aller plus ou moins bien, ça va durer plus ou moins longtemps. On aura la chance d'avoir des enfants ou de ne pas les avoir. Et les enfants vont être super ou un peu moins super. Certains vont nous quitter trop tôt. On va vieillir et puis on va se dire, ah ben oui, il y en a qui vont vivre avec une bonne santé jusqu'à 80 ans. Puis d'autres, c'est à 50 balais que ça a commencé à mal se passer. Mais à l'arrivée, on meurt. Mais si on regarde d'en haut nos petites vies de fourmis, c'est exactement la même chose. Pas l'un ici d'entre nous peut dire, je pense différemment d'un tel. C'est sur des détails qu'on se différencie. Et de la bienveillance dont tu parlais, oui, du coup, quand on se rend compte de ça, on peut être que bienveillant les uns avec les autres, puisqu'on est vraiment tous dans le même bateau, et nos gènes font que, et notre culture, mais même au-delà de notre culture, parce que quand on regarde les gens d'autres cultures, on se rend compte, les ethnologues se rendent compte que les grandes étapes de la vie, les grandes façons de raisonner, les grandes attentes, les grandes peurs sont toujours les mêmes. Donc quand Jésus dit « je les connais et je n'ai pas confiance en eux », il veut parler de l'humanité dans ses grandes lignes et il serait très orgueilleux de croire que nous ne faisons pas partie de cette humanité-là et de ces grandes lignes-là. Alors simplement pour remettre d'entrée ce qu'ils pensent vraiment de nous. Comme ça, ça sera clair. On va aller dans Romains. Donc c'est Paul. On peut penser que Paul parle au nom de Jésus et que sa parole a du sens, est validée par le grand patron. Alors je ne vais pas tout lire parce que Romains est brutal, Romains est brusque, hein, mais juste au chapitre 1, je vais lire 4 versets à partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de mœurs, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je l'ai un peu tiré de son contexte, mais je ne crains pas de dire que c'est quand même un portrait qui correspond à l'humanité en général dont nous faisons partie. Et un peu plus loin, au chapitre 2, versets 12 à 24, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Là encore, il est question d'actions secrètes, c'est-à-dire « je sais exactement qui tu es, je sais ce que tu as fait. » Et ne va pas te cacher derrière une loi que tu connaissais ou une loi que tu ne connaissais pas. Ce n'est pas le plus important. Mais je ne peux pas avoir confiance en toi. Mais si je regarde à l'intérieur de toi, peut-être tu vas me donner des raisons de finalement me dire, non pas que je m'étais trompé, mais qu'il y avait une graine qui méritait que je m'intéresse à toi. Et plus tard, donc au verset 17, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant inscrit dans la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alors vous allez me dire, oui, mais ça concerne les juifs. Non, il n'y a plus ni juifs ni païens, ça nous concerne. Que celui qui, à un moment ou l'autre de ces deux textes, ne se dit pas, paf, tiens, ça c'est ma vérité, ça c'est ce que Dieu connaît de moi profondément. Moi, je lui tire mon chapeau. Encore une fois, ce n'est pas des accusations, hein, simplement, je relis pour vous mettre tout à fait à l'aise. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Le paquet est mis, je le prends et je l'accepte, croyez-moi. Il nous connaît totalement, complètement, profondément, sans une once de cachette. Tout ça est impossible, parce qu'il est Dieu, bien sûr, évidemment, mais aussi parce qu'il a été homme. Donc, en étant homme, il sait tous les replis de nos faiblesses. Il sait tous les endroits où on est fragile. Lui, évidemment, à chaque fois, a pu mettre le rempart, parce qu'il était Dieu. Mais il sait très bien les 1000 occasions par jour de succomber, de ne pas être bien dans sa peau, de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, dont on sent à l'intérieur. Parce qu'être chrétien, c'est peut-être cela. C'est simplement avoir soudain la petite lumière qui éclaire l'obscurité dans laquelle on était, qui dit, ça, ben non, ça ne va pas être possible. C'est pas, non, ne fais pas assez. Eh, mon pauvre, non. Ça, oui, être chrétien, c'est peut-être ça. C'est simplement avoir une lumière qui nous éclaire intérieurement et qui nous dit, raté. Comme on dit, péché, à côté de la cible. Merci Yann, c'était il y a 20 ans, je lui ai oublié. Voilà, toujours à côté de la cible. Et donc il fut homme et il a été tenté. N'oubliez pas, dans Luc 4, 1, 13, la fameuse... On passe un peu rapidement sur ça parce qu'on a l'impression que c'est une histoire symbolique quand il rencontre le diable, vous savez, après les 40 jours de jeûne. Ça vaut quand même le coup qu'on s'arrête quelques instants sur cette tentation où il est totalement homme, donc où il est totalement nous, donc où il peut complètement nous comprendre. Donc quand il dit « je n'ai pas confiance en vous, je vous connais parfaitement », parce que lui peut se permettre, parce qu'il a été dans la même situation. Ce qui est terrible quand on rencontre des gens qui vous jugent, « oui, tu as fait ça, c'est pas bien, oui, mais tu n'as jamais été dans ma situation, abruti. » Alors, ok, si tu as été dans ma situation et que tu as été capable d'avoir la bonne réponse, je te dis bravo et j'écoute ce que tu me dis. Puis si tu n'as jamais été dans ma situation, tais-toi, passe ton chemin. Tu ne sais pas ce que je vis. Alors, ça va bien de me donner des leçons. J'ai aucune envie de tes leçons parce que tu n'as aucune légitimité à me les donner. Plains-moi, prie avec moi, aime-moi, aie de la bienveillance, m'arrête de me juger, t'y connais rien. Par contre, si tu es passé par le même endroit, tu as souffert et tu t'en es sorti, là je t'écoute. Parce que tu peux m'aider. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Je ne sais pas, ça doit me rappeler des souvenirs. Donc, vous vous souvenez, il y a trois tentations. La première, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Dieu répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Simplement, il fait référence à notre misère spirituelle. La première tentation que lui donne le diable, c'est de dire, attends, Dieu c'est bien bon, mais d'abord il faut se nourrir, il faut manger, il faut... Donc, oublie un peu ça, et moi je vais te donner de quoi te nourrir en tant qu'humain. Mais que en tant qu'humain dans l'horizontalité. Et Dieu dit, Jésus dit, non mais d'abord, avant de penser à nourrir mon corps, je dois nourrir mon âme, je dois nourrir mon esprit. Donc ça c'est la tentation de la misère spirituelle. Il y a été confronté. On y est confronté régulièrement. Il y a tellement de moments où, quoi qu'on fasse, on oublie que d'abord, c'est ce qui se passe avec lui qui est important. À ce moment-là, le pain qu'on va manger, oui, il aura encore plus de sens que si on a oublié que c'est du pain que lui nous donne pour nous, que notre corps soit fortifié, évidemment, mais pour lui, pas pour nous. La deuxième tentation à laquelle il a été confronté, c'est évidemment... je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui il veut. Donc si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Là c'est la tentation de l'égocentrisme, c'est la tentation du moi-je, qui va ensuite selon les personnalités. C'est comme je disais tout à l'heure, on a les mêmes vies, mais il y en a qui veulent être président de la République, hein, il y en a d'autres qui veulent être chef des pompiers, le troisième qui veut être... roi du théâtre, roi du barreau, enfin chacun peut mettre dans sa propre vie, oui, mais non, c'est ce moi-je-là, je vais réussir dans l'existence, j'ai qu'une vie, je vais y arriver, je vais monter le plus haut possible pour avoir plus de reconnaissance, plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'amour, plus d'hommes, plus de femmes, toutes les portes sont ouvertes, mais si vous regardez bien, on croit que c'est des portes très différentes, mais c'est la même porte, qui revient à la deuxième tentation, le moi-je, moi je vais faire quelque chose. On vient, il y a eu des milliards d'hommes avant, il y en aura peut-être des milliards ensuite, ça je ne sais pas, mais ce moi-je-là est né. Évidemment qu'il faut vivre, qu'il faut avoir l'ambition de réussir sa vie pour sa famille, ses amis, ou même si on n'a pas de famille, pour faire du bien. Évidemment, on n'est pas là pour être des ectoplasmes. Mais le culte, il est dit, c'est à Dieu qu'il faut le rendre. Toutes les fameuses histoires sur les idoles, etc., je ne vais pas les reprendre, vous les connaissez. Ne nous trompons pas de culte, ne nous trompons pas d'objectif. Même si ça, ce sont des moyens collatéraux de mieux vivre, oui. Mais ne remplaçons pas l'essentiel par le superficiel. Et enfin, le troisième, le diable conduisit à Jérusalem, le plaça sur du temple, il dit, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'un ange viendra te porter, etc. Et il répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est peut-être la pire des tentations qui nous concernent, nous. On peut peut-être admettre que les deux premières, puisqu'on est chrétien, on a réussi à peu près les amadouer, la misère spirituelle et le moi-je. Mais là, l'orgueil vis-à-vis de Dieu, je te connais, je me suis donné à toi, tu m'as sauvé, donc maintenant, on va faire un deal ensemble, hein, on va faire une bonne équipe. Évidemment, t'es Dieu, moi je suis l'homme, mais on peut peut-être, donnant, tu me donnes quoi contre la prière, tu fais quoi, Puis, attends, là, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. C'est ça, tu ne tenteras pas ton Dieu. Sous prétexte que tu le connais, sous prétexte qu'il t'a rencontré, qu'il a accepté de te faire confiance, tu vas jouer à donnant-donnant. À genoux, oh. Tu ne tentes pas ton Dieu, là. Il y a un prénom que j'aime beaucoup, pour deux raisons, parce que je l'ai donné à mon fils, et qu'Emmanuel et Sandrine ont donné au leur, qui est Timothée. Oui, parce que peu de gens savent que j'ai un fils de 33 ans, parce qu'en fait, il n'est jamais venu ici. Un jour, j'espère le faire revenir, mais ça, c'est... Donc, Timothéos, qui veut dire qui craint Dieu. C'est un très beau nom, ça. Est-ce qu'on est dans la crainte de Dieu? Parce que ces trois tentations que Jésus a connues, qui regroupent toutes les tentations de notre vie, elles sont en fait contenues en une seule. Qui craint Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es Timothéos? Si tu ne le crains pas, tu n'as rien compris. Et surtout, tu es fou. Parce que tu penses que ça ne va pas. Il est là, il sait tout. À l'intérieur, tu peux cacher à tous les amis du culte, à l'extérieur, mais c'est du vent. Parce que lui, il sait. Et je voulais vous faire un petit résumé de ce qu'a été la vie de Jésus. Imaginez cet homme, depuis qu'il est en âge de comprendre, donc l'âge de raison, puisqu'il sait ce qui va lui arriver. Il est Dieu, il est omniscient, il sait ce qui va lui arriver, donc à la croix. Mais c'est une horreur. Imaginez-vous votre vie en connaissant votre avenir. Et c'est épouvantable. On arrêterait tous parce qu'il vaut mieux pas connaître son avenir, quel qu'il soit. Lui, il le connaît. Et il arrive à vivre pourtant son existence en étant dupe de rien, d'aucune personne qui l'entoure, même pas de ses disciples, alors encore moins de ses ennemis. Mais quelle vie de terrible! Quelle charge à porter, tout ça pour nous. Et tu oses dire que tu ne crains pas Dieu, pour qui tu te prends? Regardez, je vais vous donner 12, 13 exemples que vous connaissez tous, mais si on les remet sous le même porche, je dirais, de la préscience de Jésus, ça devient tout à fait impressionnant. L'épisode de la Samaritaine, donc qui est dans Jean. Là, je vais essayer de vous lire les textes à chaque fois, mais très rapidement. C'est que un ou deux versets, donc ça va aller très très vite. Je dis ça pour José, pour qu'il ne s'affole pas. Donc, la fameuse Samaritaine qui lui dit, 4, 17, 18, « La femme répondit, je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, Tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Tous les gens, vous vous souvenez, je connais chacun, je connais l'homme, comme on a lu le premier verset. Il va passer son temps dans les évangiles à le montrer, à le mettre en place, à être confronté à des gens dont il sait déjà qui ils sont, avant même qu'ils viennent les voir. Imaginez, si on avait cette possibilité-là, on serait ici. Il y avait un film qui s'appelait ce que veulent les femmes. Alors, c'est un film qui était avec Mel Gibson, qui vaut ce qu'il vaut. C'est un publicitaire et qui un jour a un choc électrique, etc. Et du coup, quand il se réveille, il entend toutes les pensées des femmes, qu'elles ne disent jamais, évidemment. Bon, évidemment, le film part sur d'autres pistes que je ne dirais pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, il se réveille et soudain, il a la tête pleine de voix. Et dès qu'il se promène, il entend ce que dit les passantes et tout. C'est horrible, c'est une espèce d'acouphène d'humanité qui est monstrueux. Donc après, le film n'a pas plus d'intérêt que soi. Mais ça, c'est intéressant. Imaginez Jésus, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il va se promener, il entend tout, il voit tout, il sait tout. Et non seulement il sait s'il vient tard, là, ce qu'il pense à la seconde. Là, il se met comme ça, derrière, je vois. Alors moi, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il s'endort? Est-ce qu'il ceci s'intéresse? C'est pas mon problème. Tu vois, lui, il sait, et puis il sait d'où il vient, ce qu'il a fait à 3 ans, à 7 ans, il sait si à 73 ans il sera encore là et comment il partira. Cette espèce d'immense connaissance qu'il a de l'humanité, qu'il ne peut supporter que parce qu'il a l'amour de l'humanité. Un amour d'une humanité dont pourtant il sait qu'elle ne vaut rien, dont il n'a pas confiance en elle. Vous voyez le paradoxe? Donc voilà, la fameuse Samaritaine, elle vient, il entend tous ces trucs, il prend son temps pour lui dire, de toute façon, je sais, tu as eu 5 maris. Paf. On continue, le paralytique, Luc 5, 22. Alors c'est que, évidemment, c'est des endroits que vous connaissez par cœur, mais je sors juste la petite phrase pour vous montrer dans quelle vie il vivait par amour pour nous. 5, 22, donc quand on amène le paralytique, etc., les scribes, les pharisiens se mettent à raisonner, à dire qui est celui qui peut faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si c'est Dieu lui-même. Jésus connut leur raisonnement. Il ne les a pas entendus, il les connaissait. Et il leur dit, etc., etc. Luc 6, 8. Ce matin, très tôt, aux aurores, je me suis amusé comme ça à relire. Il y en a à chaque fois, il y a les voix qui lui parlent. Il y a son état divin, le fait qu'il soit Dieu qui lui révèle tout ce qu'on est. Il n'y a pas une once de secret. La main sèche. Vous vous souvenez, hein? Les scribes, les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais ils connaissaient leur raisonnement. La pécheresse et le parfum. Luc 7, 36. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, cet homme est un prophète. Alors, il n'est même pas quelqu'un, c'est en lui-même. Il saurait qui est la femme qui le touche, est-ce qu'elle est une pécheresse. Et à ce moment-là, Jésus répond. Jésus sait déjà ce que pense. Il n'a même pas murmuré, c'était à l'intérieur. On continue. Toutes ces voix qui sont dans sa tête. Je veux vraiment faire toute la liste pour que vous vous rendiez compte que si à son époque, quand il a vécu, il a eu tout ça, il sait exactement... Ici, là, ce matin, tout ce qui est en nous, je veux vous faire peur de la bonne façon, de la crainte, pour vous montrer qu'il entendait tout, donc c'est pareil avec nous. 7,46, la femme qui a une perte de sang. Alors là, c'est encore pire, si je puis dire, puisque la femme ne lui parle même pas, simplement, elle l'a tout de loin. Et tac, il sait qu'il y a quelqu'un qui a tel souci, tel problème, même pas en la voyant, même pas en ayant écouté, c'est juste une onde. Mais c'est invivable. C'est invivable. Et il le fait par amour. Pour nous, qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais c'est monstrueux. Moi, si je devais connaître, que Dieu m'en garde, tous vos secrets à vous, toutes vos maladies, tous vos problèmes, ce que vous êtes, je partirai, je m'occuperai pas de vous, je pourrais pas, je veux pas savoir, j'ai déjà assez de mal avec moi-même, j'ai de la bienveillance évidemment, mais vous avez vu qu'elle s'arrête vite, à la fin je vous dis bonjour, comment est-ce que ça va, je vois bien, et certains qui vont plus ou moins bien, je dis bah ouais, je suis désolé, je fais un baiser, plus fraternel possible. Puis il y a un conjoint qui est très, qui va pas bien, de temps en temps, je m'esquive parce que j'ai pas le courage de dire quoi, que je fasse. Puis il y en a même un ou deux parfois qui sont là, ils attendent, ils tournent, et puis tout le monde va manger à droite, à gauche, et la personne est seule. Et moi je me dis, grand couillon, tu peux pas lui dire de venir avec toi à table? Ben non, je le fais pas, parce que voilà. C'est terrible. On n'est pas capable de porter ça. Lui, oui. Et pas pour 38 personnes, pour l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin. Je continue, je veux vous... Luc 9, 47. Alors, c'est à quel moment ça? Ah oui. C'est entre les disciples. Donc là, en plus, c'est des gens quand même. C'est pas n'importe qui. C'est pas le plou qui savait rien. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, etc. La guérison du muet, Luc 11, 17. Mais quelqu'un dire, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons, et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demander un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, etc. On continue. Luc 19, 5. J'ai dû en laisser passer quelques-uns, mais... Zachée, donc comme la femme, vous savez, qui avait perte de sang touché. Alors, Zachée, alors il y a une foule immense. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait quelque chose sur Zachée. J'avais même comparé à Sarkozy à l'époque, tout petit. pour les plus anciens qui étaient là. Vous vous souvenez, ça devait être en 2007-2008. Il y a eu beaucoup de renouvellement depuis, donc je parle... Eh bien, Zaché, il le voit. Alors lui, c'est même pas qu'il le touche dans la foule entière, un petit nain sur un arbre. Il s'arrête, il dit, toi, je te veux, tu t'appelles Zaché, tu viens. Attends, c'est épouvantable. Il sait chacun, même le gars blindé. Et en plus, il sait son prénom, il sait ce qu'est son problème, il le fait venir. Il n'avait pas tout un réseau de renseignements à la Poutine pour lui dire ça. Parce que c'est en lui, parce qu'il nous connaît tous, parce qu'il a confiance en personne et qu'il sait exactement qui on est. C'est presque fini. Je vais même plus lire pour aller plus vite ce que vous connaissez. L'annon pour Jérusalem, même avec les animaux, ça marche, je dis. Même les animaux, c'est comment on rentre pour Jérusalem. Non, alors vous allez là, il y a un âne, pas un annon, hein, il sait même, ça trouve l'âge de sa mère, avec les grandes oreilles vertes, et vous allez demander, il y a quelqu'un qui va vous dire, allez le prendre, et c'est exactement ce qui se passe. Attends, mais c'est... S'il avait fait des spectacles de cabaret, il aurait fait fortune. Enfin, si on veut voir les choses comme ça, ça continue. Ça va être la veuve, tous les gens qui distribuent. Alors, au temple, il y avait plein de gens qui mettaient. Et lui, il est capable d'aller voir qu'il y a une petite veuve, donc on imagine petite, toute rabobée, qui a deux petites pièces, et il dit, elle a vu. Vous ne croyez pas qu'il était là? Ah, toi, t'es la veuve? Non! La veuve, il sait! Avant même qu'elle parte, il sait qu'elle a les deux pièces et qu'elle va lui servir pour faire la leçon à un tel. Il sait tout. Il sait tout, et je terminerai par les deux, trois, là, pour les exemples. La préparation de la Pâque, c'est pareil. Comment est-ce qu'on fait? Tu vas voir un tel, il va te dire, il y a une chambre à louer à tel endroit. C'est ce qui arrive. La trahison de Judas. Qui va me trahir? C'est lui. Comment tu le sauras? Il va mettre le pain. C'est-à-dire qu'il a vu le film avant. Il a vu le film avant. Je ne sais pas si parfois quand vous rêvez, vous n'avez pas ce truc-là, vous avez l'impression que... Non, même pas quand vous rêvez, quand vous vivez une situation, je l'ai vécu ça. C'est très troublant. Alors je connaissais un neurologue qui m'a dit en fait que parfois il y a des sauts de synapses. Ça s'explique. Il y a un petit truc, ça joue sur 2-3 secondes. En fait, tu ne l'as pas vécu, mais ce que tu vis, ça repart en arrière et ça revient dans ta mémoire. Ça s'explique, hein, c'est très rare, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça vous arrive. C'est pas un problème. L'annonce du reniement de Pierre. Pierre, il dit non, non. Non, c'est pas ce que tu penses maintenant, là, c'est encore rien. C'est ce que tu vas penser plus tard, au plein milieu de la nuit, donc quelques heures plus tard, une journée plus tard. Voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que tu vas dire. Puis c'est pas une fois, c'est trois fois. Il y a un coq, ça aurait pu être un âne qui braie, un cheval qui hennit, voilà. Non, c'est le coq. Non, mais ça nous fait rire. Tant mieux. Mais c'est pas drôle. Et quand il pourrait se servir de ce qui est un don, mais de ce qui est son identité absolue, il s'en sert pas. À partir du moment où il est arrêté, il n'y a plus une seule fois où il est dit, il connaissait le cœur de ceci, etc. Il dit juste à Pilate. Le pouvoir que tu as, c'est pas toi qui l'as, c'est mon père qui te l'a donné. C'est la seule fois où il y a eu une allusion. Sinon, il ne dit rien. Et c'est les autres qui se moquent de lui. Il le frappe, les soldats romains. Vas-y, devine qui t'a frappé. Là, ça y est, il est dans quelque chose d'autre où il n'a plus besoin de rentrer en relation avec l'humain et de lui dire. Parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, c'est pour le bien de la personne avec qui il se met en contact. Là, non. Pourquoi? Parce que là, c'est son temps à lui. Il doit se garder pour lui. C'est de garder toutes ses forces, tout son courage. Quand il dit, Père, je préférais que cette coupe s'éloigne de moi, mais si c'est ta volonté, vas-y. Oui, c'est ça. Là, il est totalement humain. Il y a des moments où on est dans des moments de souffrance, il y a des gens qui viennent nous voir, et je vais pas. Écoute, excuse-moi. Je ne peux pas m'occuper de ta souffrance à toi. Parce que moi, en ce moment-là, je suis en plein dans le... Il y a aussi parfois, il faut savoir dire stop. Je m'occupe un peu de moi parce que on risque de mal donner parce qu'on n'est d'abord pas soi-même à la hauteur de vis-à-vis de soi-même. Donc là, il ne s'occupe que de lui. Donc, quelle vie pour Jésus, donc, qui sait tout ce qu'il attend depuis le début. Et c'est pour ça qu'il a l'autorité de dire dans Jean 2,5, mon premier verset que j'ai lu, « Je vous connais tous. Je ne me fie pas à vous, je n'ai pas confiance à vous. Et arrêtez de porter témoignage entre vous, parce que même vos témoignages, ils sont bidons. Parce que vous croyez vous connaître. Alors peut-être que tu vas être sincère dans ton témoignage. Mais tu ne connais pas ta voisine, tu ne connais pas ton voisin. Si vous regardez les uns les autres, même 50 ans de vie commune, les enfants, les parents, il y a des choses que vous ne connaissez pas l'un de l'autre. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Il y a des choses qui sont au fond de nous. Et heureusement qu'on les garde pour nous. Sinon, alors, ça serait totalement invivable. Connaître Jésus, c'est évidemment apprendre la bienveillance, etc. Mais c'est d'abord la honte, la repentance. Si on n'est pas passé par là et si on n'y revient pas régulièrement, notre foi, elle devient une foi de kermesse, une foi de pacotille, une foi pour les gens de l'extérieur, une foi pour que les autres soient fiers de nous ou qu'on ait une bonne image d'eux. Mais ce n'est pas une foi pour nous. Ce n'est pas une foi qui va nous faire progresser. C'est la honte et la repentance. La honte de ce qu'on est, de ce que j'ai lu tout à l'heure dans Romains. Parce qu'on est tout ça et qu'on continue à être tout ça. La seule différence, c'est qu'on se rend compte maintenant. Avant, on se disait, c'est très bien. Maintenant, on se dit, non, c'est pas bien. Il faut pas bien au sens, c'est pas digne de ce que Jésus m'offre, du fait de la confiance qu'il me fait, alors qu'il sait exactement qui je suis. Et pour moi, la meilleure image dans les évangiles de la honte et de la repentance, c'est Pierre dont je parlais. Pierre qui a vécu avec lui. Qu'est-ce qu'il fait quand le coq chante et tout? Il pleure. Il pleure de honte. Parce qu'il se rend compte qu'il est une lavette, mais rien, qu'il vaut rien. Et que lui, Jésus, il a tout vu, tout compris. Et il pleure de deux choses. Il pleure d'abord parce qu'il se dit, putain, je ne vaux rien, j'aurais pu un peu avoir les... Allez, qu'est-ce que, de toute façon, allez, je le connais, oui, c'est mon maître, je l'aime, et puis allez-y, puis à la limite, fuir après en courant. Rien, ça c'est sa première honte, pourquoi il pleure. Mais la deuxième, peut-être on y pense beaucoup moins, il pleure parce qu'il se dit, mais ce Jésus, il connaît tout de moi, tout. Donc il pleure parce que le coq, il a un truc, mais si ça trouve, il pleure parce qu'il sait que le jour de la paix, j'ai fait ci, que le jour, j'ai fait ça, même quand j'étais avec lui un jour, j'ai été faire ça, il le sait, mon Dieu, il sait tout. Parce que le coq, à la limite, les trois fois, les renier, mais vous vous rendez compte? Si on se dit là, mais Jésus, il connaît tout, et là, il n'y a que vous qui sachez ce qu'il y a à connaître, n'est pas à la hauteur. Et rassurez-vous, j'ai un monceau. Hein. Là, il y a de quoi pleurer. Et moi, j'aime imaginer que les larmes de Pierre, elles sont autant pour le coq que pour tout le reste. Parce que là, il prend conscience de qui est vraiment Jésus. Ce Dieu devenu homme qui sait tout de nous. Tout, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Une fois qu'on a pleuré, ça ne suffit pas. Il faut passer à l'étape suivante. Il faut se libérer. Alors, connaissez ça, libérer, délivrer. Hein, mais il y a une version beaucoup plus riche que la Reine des Neiges. C'est la version... Oui, j'ai vu qu'il y a une petite fille qui a la Reine des Neiges, là, au fond, c'est bien. C'est la version de Jésus, c'est... qu'on lit dans Galates, cette fameuse liberté, Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude, les trois tentations de Jésus dans le désert, le moi-je, ma vie terrestre avant tout, et même ma tentation de faire égal avec Dieu. Non, libérons-nous de ces tentations-là. Alors, s'en libérer, ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait. C'est impossible. Et Dieu le dit très bien, Paul le dit très bien. Vous serez incorruptible après. Pour le moment, tant que le vieil homme, vous êtes sur terre, vous êtes dans le vieil homme, quoi que vous fassiez. Sauf que, on sait qu'on a cette promesse de devenir enfin à son image, totalement. Mais le mot de liberté, il est fondamental. Et je reviens toujours à... donc un peu plus loin dans Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, oui, bon, évidemment, on ne peut pas mordre l'autre, mais la première morsure, la pire qu'on se fait, c'est à soi. C'est là qu'on se fait le plus de mal. Et c'est parce qu'on se fait du mal à nous qu'ensuite on va faire du mal aux autres. Les morsures intérieures qu'on se fait personnellement, tout ce qu'on a, tout ce que Jésus connaît, que personne d'autre ne connaîtra, ou une, deux, trois personnes, qu'importe, c'est ça qui nous mord, qui nous dévore de l'intérieur. Et la liberté dont parle Paul et dont parle Jésus, c'est celle-là. C'est libérez-vous de ce fardeau-là. Quand il dit « je prends tous vos fardeaux », c'est ça sans doute dont il veut parler. Tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous dévore et tout ce qui fait pleurer Pierre parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et que... En plus, ce qu'on a fait, c'est fait. On ne peut même pas le rattraper. On peut demander pardon, oui, mais bon, le mal, il est quand même fait. Hein. Mais libérons-nous de ça. Et dans Jacques, il est dit cette phrase essentielle. Jacques parle de la loi parfaite. Alors c'est quoi? C'est la compassion, l'amour? Non, Jacques, vous verrez, dans Jacques 1, 25, la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. C'est marqué. Mais la liberté, comme il est dit, pas de celle de vivre dans la chair, mais la liberté d'être enfin, de ne plus se cacher vis-à-vis des autres et de soi-même surtout. C'est ça la victoire de Jésus dans notre vie. C'est accepter d'être ce qu'on est, toutes nos failles, et là, on n'a pas le choix. Mais on a été chrétien, on a accepté que Jésus éclaire nos ténèbres les plus cachées, qu'on a tous. Ne nous leurrons pas sur ça, qu'on a tous. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Il n'y a pas petite faute, grande faute, ce n'est pas possible. Tout est dans le même sac. Quand on s'élève un pot et qu'on regarde toutes les fourmis, tout se vaut, tout est équivalent. Mais on a la liberté de dire ça ne me dévorera plus. Ce qui a été fait est fait. Et ben, j'en demande pardon à Dieu. Si je demande, et c'est dit dans les Épîtres, si, avant de demander pardon à Dieu, va demander pardon à la personne avec qui ça s'est passé. D'accord. Ça libère. C'est cette liberté-là dont on a besoin. Et parce qu'on a du coup cette liberté-là de se dire ces fardeaux, mes failles, je les accepte, j'essaye d'y remédier, mais je ne ferme pas les yeux dessus parce que je sais que Jésus ne ferme pas les yeux dessus. Donc à quoi bon me croire que je les cache? Je les accepte. Après, j'essaie de régler ce qui est à régler. Et du coup, on est libre pour aimer son prochain, libre pour prier mieux, libre pour faire des bonnes actions, libre pour vivre simplement, libre pour... Même à la limite, pour accepter encore des nouvelles épreuves, on se dit oh, je suis libéré de ça. Même si c'est encore à l'intérieur de moi, j'en suis libéré au sens où ça ne me pèse plus. Je ne dis pas que ça n'existe plus, ça ne me pèse plus. C'est ça être chrétien. C'est la bienveillance, elle est le fruit de tout ça. Elle est le fruit de nos larmes, les larmes de Pierre qui accepte ce Jésus merveilleux qui va voir mourir, donc lui il l'a vu, mais qui s'est accepté aussi les larmes de se dire il sait tout de moi et je ne vaux pas tripette. Et malgré ça, alors qu'il a dit qu'il a confiance en personne qui nous connaît tous, il me tend la main et il va vivre cette vie pendant 33 ans, cette vie de malade où il va tout voir, tout entendre, tout savoir, tout comprendre. Mais c'est une fois qu'on a compris ça, là la liberté elle est enrichissante. Alors ça résout pas tout, parce qu'il faut qu'on finisse chacun notre chemin, mais je pense qu'elle peut nous permettre de progresser et de plus se mordre soi-même. Du coup, on mordra moins les autres, et petit à petit, peut-être qu'à force, on fera des caresses, et que ça fera du bien à tout le monde et à soi d'abord.